Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 Pépites, le podcast feel good qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de 3 enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, je vous livre un épisode aux côtés de Camille. Camille de Crozan est la fondatrice de Bambadam, des livres personnalisés pour raconter à son enfant sa naissance. Que ce soit une naissance classique ou avec quelques spécificités, en césarienne ou prématurée par exemple. Et puis ça peut être des schémas avec un papa et une maman, mais aussi avec un parent solo, ou dans le cas personnel de Camille, deux mamans. Camille est en couple avec Aurélie depuis 14 ans, et c'est en accueillant sa fille qu'elle a réalisé qu'aucun livre ne représentait son histoire. Elle a donc décidé de donner de la visibilité à toutes les formes de famille. Moi, j'aime beaucoup les boîtes qui sont issues d'histoires personnelles, bien sûr. Donc, je suis très touchée d'avoir Camille à mon micro, qui parle avec justesse de son histoire, comment elle a découvert son homosexualité, comment elle a abordé ce thème avec ses parents, sa rencontre avec Aurélie, et comment, ensemble, elles ont nourri ce projet de devenir parents et de faire famille. Évidemment, dans l'épisode, on parle aussi du milieu de l'édition et de toute la poésie qu'elle a envie de distiller dans ses livres. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, peut-être un peu perturbée par les bruits des sirènes. On a enregistré dans les bureaux de Camille à Paris, qui, on va dire, sont un peu animés. Allez, je vous embrasse, bonne écoute. Salut Camille !
Salut !
Merci de me recevoir dans tes bureaux.
Avec plaisir.
On est dans les bureaux de ta boîte que tu as créée, Bambadam. Mm. On va en parler évidemment en long, en large, en travers, parce que c'est quand même un sujet qui touche les familles et c'est un gros coup de cœur de mon côté. Je te propose aujourd'hui de parler évidemment de ta vie pro, mais on est quand même sur un, deux, trois pépites, donc on parle famille. Et toi, tu as une famille bien sympathique. Tu partages ta vie. Extraordinaire, tu vas m'en parler. Tu partages ta vie avec une autre femme et toutes les deux, vous avez une petite fille.
C'est ça.
C'est ça. Bon, est-ce que tu peux commencer déjà par le rituel de mon podcast, qui est de me dire quelle est ta Madeleine de Proust ? Un son, un geste, une odeur qui te replonge dans ton enfance ?
Alors, moi, c'est un son et c'est une chanson des Forbans qui chante dans ses métiers baskets. Je ne sais pas si tu connais cette chanson.
Si,
exactement. Je vais pas faire la fond de la chanter, mais je l'adore. Et quand j'étais petite, c'est vraiment la chanson. C'était une chanson dans une cassette Evian ou vraiment une publicité qu'on mettait dans la Fiat Panda pour aller à l'école. Et moi, j'adore cette chanson. Et je me rappelle que j'arrivais jamais à retenir Forban, donc je pensais à un banc qui était très très fort parce que j'avais 6 ans. Hein. Je retenais du coup le nom des Forbans et ça m'a jamais quitté. Un jour, je les ai vus en Bretagne il y a 8 ans. J'ai vu les Forbans en concert ce soir. J'étais hystérique.
Eh ben merci pour ce petit souvenir. Est-ce que tu peux me présenter ta famille ? Parce que là, je l'ai fait rapidement, mais c'est plutôt avec tes mots que j'ai envie de l'entendre.
Oui, alors il y a Aurélie, ma femme, avec qui je suis depuis 14 ans, je crois, 15 ans.
Belle perf.
Ouais. Et Alma, qui a 4 ans et demi.
Et donc, que vous avez eu il y a 4 ans suite à un parcours PMA. Donc, je te le disais, hein, c'est un sujet que j'ai jamais abordé dans un 2-3 pépites. Comment ta famille a accueilli ton homosexualité ? Comment toi, tu l'as découvert ? Est-ce que voilà, il y a eu des incompréhensions de la part de ta famille ou est-ce que tout a été plutôt fluide ? T'as quelle histoire par rapport à ça ?
J'ai découvert que j'aimais les femmes à peu près à 20 ans. Il a fallu un Erasmus et encore un autre départ à l'étranger pour le comprendre, l'assumer. Il y a tout un processus comme celui du deuil, en fait, le deuil de la vie qu'on avait tracé, en tout cas que les autres ou la société traçaient pour nous, c'est plutôt ça. Et j'avais l'impression d'être au pied d'une grande montagne et je trouvais déjà la vie, sortie de l'adolescence, un peu complexe. Et je me suis dit, waouh, encore un peu, super. Voilà, j'avais un sentiment d'injustice et passé ça, j'ai pu assumer. Ça a pris du temps et surtout, il a fallu rencontrer Aurélie pour ça, qui, elle, se fichait royalement du regard des autres, mais pas moi. J'avais du mal à m'en affranchir.
Ça t'a aidé en fait de voir comment elle le prenait.
Oui,
finalement, cette donnée-là pour pouvoir s'affranchir du regard des autres.
Complètement. Ouais. Mmh. Et j'ai annoncé à mes parents juste avant de rencontrer Aurélie. Donc c'est drôle. Je revenais d'Erasmus et je partais aux États-Unis pendant un an, là où j'ai rencontré Aurélie. Et dans les vacances d'été, je leur ai dit et je suis partie. Et ça, c'était très, très bien et très stratégique. Ça a permis pendant un an en fait, que l'info circule sans que je sois dans les parages.
Qui digère peut-être l'information.
Voilà.
C'est quand même, je pense, en tant que parent, ouais. Voilà, je veux blesser personne, mais je pense que c'est quand même une vraie annonce. Quoi. C'est un chamboulement aussi en tant que parent d'apprendre peut-être que son enfant est homosexuel.
Complètement.
Même si on peut être ouvert et accepter et vouloir le meilleur pour son enfant, on peut se dire qu'il va rencontrer aussi peut-être quelques difficultés.
Exactement ce que ma mère se disait. Elle avait peur des autres, en fait, que les autres me fassent du mal, que le regard des autres me fasse du mal. C'était ça qui la préoccupait plus qu'autre chose.
Ouais, parce que dans leur réaction, tous les deux, ils ont été plutôt compréhensifs.
Oui, un peu brassés. Et voilà, c'était une annonce, quoi.
Ouais,
donc, il a fallu s'y faire. Et ils l'ont dit aux autres, à mes grands-parents, j'ai pas eu à le faire. Enfin, ça m'a vraiment soulagée parce qu'un coming out, c'est déjà très dur, mais 1000, c'est horrible, quoi.
Est-ce que tu peux me raconter comment votre désir de maternité est né avec Aurélie ?
Je pense qu'on a toujours voulu, toutes les deux, des enfants. On s'est rencontrés, en fait, on nous faisait un stage pour devenir instit toutes les deux, tu vois. On était vraiment partis dans ce parcours-là, donc elle est restée instit et pas moi. Mais on adore les enfants et je pense que c'était déjà écrit, quoi. On ne s'était pas dit on aura forcément des enfants, mais on était... Enfin voilà, moi je le savais que j'en aurais et elle aussi.
Comment s'est passé ce parcours ? Quelles sont les étapes clés que vous avez suivies du coup ensemble ?
La première étape, c'était celle du mariage. Donc ça paraît un peu absurde comme ça, mais à l'époque, comme c'était pas légal encore en France, on avait besoin d'adopter l'enfant de l'autre femme qui le portait.
D'accord.
Et pour ça, il fallait se marier. Donc c'était vraiment une énorme étape pour moi. C'était déjà très injuste, parce que c'était pas le cas pour les couples hétérosexuels, de se marier. Et un jour, on s'est senti prête et on s'est mariés. Et là, du coup, a découlé le parcours PMA.
Quels sont les moments clés pour vous, puisque au moment où vous avez eu cette envie d'enfant, c'était pas possible, en tout cas en France. Comment ça s'est passé pour vous ?
Il y a plein de petites étapes que j'ai trouvées hyper difficiles. Par exemple, trouver une clinique, appeler pour la première fois une clinique à l'étranger. Et comme on n'avait pas assez d'infos, on a rejoint une association en France. Nous, on a rejoint l'APGL.
Et c'est quoi l'APGL ?
C'est l'association des parents gays et lesbiens.
D'accord.
Et en fait, donc on est en 2014, sur internet il n'y a quasiment pas d'infos là-dessus et on avait besoin de trouver toutes les infos. Et là, tous les parents qui sont passés par là avant ont fait une sorte de petite bible pour avoir toutes les informations suivant les pays, les modalités, les prix, etc. Donc déjà on gagne un temps hyper précieux. Donc on est rentré dans cet asso, on a trouvé un groupe de parole. Et on a trouvé notre clinique. Et après, on était partis.
Donc, une clinique à l'étranger ?
Oui, en Belgique.
OK. Comment vous avez décidé qui portait l'enfant ? Comment ça s'est passé pour vous ?
C'est pas facile comme décision. On voulait, à l'origine, le projet, c'était de porter chacune un enfant et d'en avoir deux.
D'accord.
Et on s'est dit, Aurélie est un petit peu plus vieille que moi. Donc, elle a 2 ans de plus, commence. Et puis ensuite, moi, je ferai le deuxième enfant. C'est comme ça qu'on a décidé.
Et le parcours a été simple ou pas, le parcours de PMA, au final, une fois que vous avez choisi votre clinique et que Aurélie est tombée enceinte ?
Alors, ça peut être très simple, un parcours de PMA. Ouais. Le nôtre a été plein d'embûches.
Okay.
Donc, pour te la faire courte, elle a fait 14 essais, dont 2 filles.
Ah oui, ok. Oui, donc intense quand même.
Et plusieurs fausses couches, dont une où c'était un œuf clair et qui était assez avancé et on ne s'y attendait pas du tout, on pensait que c'était parti. Donc, compliqué. Long et compliqué. Et ça, là, ça a pris 3 ans avec Aurélie. Et au final, on a décidé de switcher à un moment donné quand on était toutes les deux épuisées moralement et elle physiquement, avec toutes les hormones, parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, 14 essais pour Aurélie. J'ai décidé de prendre le relais et ça a marché au bout de la deuxième fois. Et heureusement, parce qu'on était vraiment au bout. C'était extrêmement...
Ok, donc c'est toi qui as porté Alma. Oui. Enfin, je ne me rends pas compte, je ne connais pas les chiffres, mais s'il y a beaucoup de couples homosexuels qui arrivent à avoir des enfants et qui font ce parcours, qui réussissent, qui accueillent un enfant dans leur famille...
Il n'y a pas de chiffres.
Il n'y a pas de chiffres, non. Ok.
On sait qu'il y a 30 000 enfants qui naissent de PMA par an, mais toutes familles confondues.
D'accord.
Et encore, ça c'était les chiffres avant qu'il y ait la PMA pour toutes. D'accord. Et je n'ai pas les nouveaux chiffres.
Qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment tu as vécu, toi, cette grossesse ?
J'étais un peu angoissée parce que c'était après un long parcours et j'avais peur de la perdre. On avait perdu cette naïveté-là. J'avais un lien très fort avec elle. On lui parlait déjà beaucoup. On lui racontait son histoire. On lui chantait des chansons. C'était magique. Ça restait extrêmement magique. Mais c'est vrai que j'avais hâte de l'avoir dans mes bras et que tout se passe bien, de voir que... Voilà, elle était là, quoi, enfin.
Et donc, elle est là depuis 4 ans et demi.
Ouais.
Comment ça va, toi, dans ton rôle de maman ?
Ben, ça va, c'est chouette. J'aime bien l'âge de 4 ans et demi. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Je trouve que le bébé Aurélie était plus moteur, tu vois. Moi, si j'avais pu rester enfermée toute la journée, les premiers jours et les premières semaines, je l'aurais fait. Heureusement qu'elle m'a sortie.
En même temps, c'est toi qui a accouché, c'est peut-être aussi lié.
Oui, bien sûr. Mais j'avais un peu peur de tout. Tu vois, tout était compliqué, l'allaitement, etc. Donc, c'était pas forcément simple comme début, mais aujourd'hui, on s'éclate. C'est vraiment très très chouette le quotidien avec Alma.
Et alors comme ça, là, moi j'ai envie de dire, vous faites famille autrement. Alors c'est peut-être un peu indélicat, mais c'est comme ça que je le vois quand même, parce que j'ai quand même ce contexte de la famille nucléaire de mon côté. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça quand on dit on fait famille autrement ?
On peut dire qu'on fait famille autrement dans la mesure où on n'est pas dans le schéma dominant, celui qu'on voit le plus, mais on a fait famille comme les 30 000 personnes qui font famille aujourd'hui en PMA, et on a une histoire tout à fait classique finalement.
Et alors c'est quoi ? Est-ce que vous avez un rituel, toutes les trois, un rituel de famille propre à vous, vous trois ?
Non, je ne sais pas si on a un rituel, mais il y a plein de petits rituels qui jonchent notre semaine. Tu vois, il y a les pancakes du dimanche matin, c'est Alma et moi. Pendant qu'Aurélie attend que les pancakes arrivent en faisant autre chose, parce qu'on en met tellement partout dans la cuisine. Et bon, je ne dirais pas qu'Alma cuisine, elle mange plus ma pâte, mais tu vois, c'est ces petits moments-là que j'adore. Aller au marché toutes les trois, toutes nos balades qu'on fait ensemble et nos repas. Enfin voilà, on est une petite famille soudée.
Et alors ce parcours et cette famille que tu as construit avec Aurélie, ça t'a beaucoup inspiré pour la boîte que tu as créée il y a maintenant 2 ans, Bam Badam, pour les battements du cœur. Ouais. J'ai appris ça dans
c'est
un second
Alma
temps.
Qui l'a trouvé.
Nous, on s'est rencontrés toutes les deux lors d'une soirée d'entrepreneurs organisée par Émilie Duchesne, petit coucou. Et on était dans le même groupe de discussion et j'ai beaucoup aimé ta façon de le présenter. Est-ce que tu peux le partager ? Qu'est-ce que Bam Badam pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent ?
Bam Badam, c'est un livre personnalisé qui raconte la naissance de chaque enfant.
Donc dans l'idée, c'était vraiment de montrer toutes les histoires possibles, que ce soit un enfant prématuré, un enfant avec 2 mamans, un enfant avec 2 papas, un enfant avec un papa et une maman, bien sûr, tu es sur des schémas classiques aussi. Tu peux personnaliser ce petit livre avec le prénom, un mot des parents, et puis visibiliser ces parcours-là qui, selon toi, ne l'étaient pas.
Ah, complètement. Et au fur et à mesure que je créais le livre, on m'a même fait des requêtes. Donc, j'ai développé la césarienne. Comment expliquer à son enfant sans support la césarienne, c'est assez complexe. Donc on a aussi développé tous ces parcours-là qui étaient complètement invisibilisés, comme les prématurés. Il y a très peu de support et il y en a pourtant 60 000 par an. Mmh. Moi, ces chiffres, je ne les avais pas en tête, mais j'ai trouvé ça phénoménal.
Et donc, c'est en t'abreuvant des histoires des uns des autres que tu as agrémenté, en fait, finalement, tout ton livre qui peut se personnaliser en ligne et ensuite être offert aux petits. Et comme support de discussion sur quelle est ta naissance et quelle est ton histoire.
Pour poser les mots.
Et qu'est-ce que tu retiens là ? Ça fait 2 ans que tu es lancée, que tu as édité plus de 1500 livres. Donc, c'est 1500 familles qui t'ont confié leur histoire. Qu'est-ce que tu retiens de cette période folle pour toi là ?
Je retiens beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide aussi. Ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une grande famille qui crée Bam Badam avec moi. On le crée ensemble, quoi, avec nos besoins, nos envies, nos enfants, nos histoires. Donc, c'est formidable. Et ce qui est fou dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque mois est unique. Et depuis le début, j'ai l'impression vraiment que rien n'est pareil, tout est mouvant et ça évolue continuellement, ça me va très bien. Hein. C'est génial, en fait, c'est une très très belle aventure.
Tu te sens l'âme d'une entrepreneuse ?
Je ne sais pas s'il y a une âme, mais en tout cas, je me sens très bien là où je suis et ça me va bien à ce moment de ma vie.
Et Alma sait qu'elle est à l'origine de tout ça ?
Ah oui, elle sait. Elle en est très, très fière. Le soir, elle me dit « Alors, t'as fait combien de Bam Badam aujourd'hui ?» Ouais. Et au début, quand elle voyait d'autres enfants avec le livre, elle croyait que c'était son livre et elle a vite compris qu'il y avait plein d'histoires. Mais elle en est très fière, elle sait qu'elle est à l'origine de ce changement de vie. Je lui ai bien raconté en fait ça, que c'était pour elle et aussi pour tous les autres et que c'était grâce à elle.
Camille, toi tu viens donc vraiment du milieu de l'édition, tu étais chez Albin Michel, là tu as créé Bam Badam. Donc dans la bibliothèque de nos petits, qu'est-ce qu'on met en plus de Bam Badam évidemment ?
Alors Bam Badam c'est déjà un bon début parce qu'ils auront au moins le livre de leur histoire. Et après essayer de diversifier les représentations avec des livres qui mettent en scène plein de schémas familiaux, plein de diversité ethnique, vraiment essayer de varier au maximum et surtout lire les livres avant de les mettre parce que parfois on a des petites surprises au-delà de la 4e de couverture.
C'est quoi ta plus grande surprise récente ?
Je sais pas si c'est récent, mais je pense par exemple à Jean à 2 mamans que j'avais mis fièrement sur la liste de naissance d'Alma et quand je l'ai reçu, on l'a renvoyé directement.
Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais,
parce que c'est hyper stéréotypé. Ça commence par avoir 2 mamans, c'est avoir comme avoir un papa ou une maman. Et ensuite, il y a une maman, maman et une maman papa comme en 1940. Moi, c'est un enfer.
Oui, ça te parlait pas du tout, quoi.
Non, ça me parlait pas du tout.
Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de gens qui ont ce genre de pensée et ce genre de façon de voir les choses.
Ouais, peut-être un peu. Après, ce livre, il a 20 ans, donc je l'excuse un tout petit peu. C'était l'un des premiers livres qui est sorti sur le sujet de représentation. Il a eu le mérite d'exister, mais maintenant, il ne faut vraiment plus qu'il soit dans les bibliothèques.
Et t'en recommandes un d'ailleurs sur cette thématique ?
Moi, j'aime bien les livres qui ne font pas catalogue de différences et qui évoquent deux mamans, par exemple, mais où ce n'est pas le sujet.
Ouais, okay.
Donc, je traque ça. Et ça, c'est assez rare. Il y en a un peu, mais c'est rare. Mais sur la diversité des familles, j'aime bien, par exemple, Famille de Didier Jeunesse, qui est assez mignon et qui ne fait pas trop catalogue de différences, qu'il y a beaucoup de poésie.
La poésie, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup. Tu l'as dit à plusieurs reprises, le fait que ces livres doivent être poétiques, que la naissance doit être racontée de manière poétique, quel que soit le contexte. Comment t'expliques cet attrait ?
Parce que je trouve que dès qu'on parle des familles différentes, on arrive dans un documentaire, une sorte d'explication, et il n'y a plus de poésie. Moi, je travaillais chez Albin Michel, tu l'as dit, et je travaillais beaucoup avec les livres Mon Amour.
Oui, je vois très bien.
Voilà, d'Archibald.
Astrid Desbordes.
Exactement. Et de Pauline Martin, je me disais pourquoi mon enfant ne peut pas avoir un livre aussi poétique avec ses deux mamans. Et si je voulais un livre avec deux mamans, on arrivait sur un livre qui expliquait la PMA, les gamètes, etc. Ou alors un livre qui expliquait pourquoi elle avait deux mamans sans aucune poésie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que je parle beaucoup de poésie et je trouve que ça manque. Et j'ai l'impression que quand on arrivera sur le domaine de la poésie, on aura normalisé. Mmh. Et c'est ça que je veux atteindre.
T'emploies ce terme de famille extraordinaire pour vous définir vous et définir quel type de famille du coup ?
En fait, pour moi, elles sont toutes extraordinaires. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans les livres. Je voudrais que l'extraordinaire devienne complètement ordinaire et qu'on soit juste des familles extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être
famille.
Un peu complexe, mais voilà, qu'on a toutes une histoire vraiment unique, même si c'est l'histoire la plus classique. On me demande parfois si ça vaut le coup de faire un livre parce que leur famille est classique et son excuse presque. Et bien sûr, chacun doit raconter son histoire et chaque histoire est vraiment très très belle.
Est-ce que tu as un mantra de maman, quelque chose qui te guide dans ta parentalité depuis que tu es maman ?
Alors, ça ne me guide pas depuis le début, je l'ai découvert un peu après, mais c'est que tout n'est que phase.
Oui, ça me parle.
Et ça fait du bien, parce que quand vraiment ça, c'est compliqué, quand c'est une phase compliquée, on sait que ça va finir. Mais on sait aussi que les phases plus agréables passent aussi.
On entend bien, là, excusez-moi, ça va passer, on est en plein dedans, hein, c'est une phase, c'est les alarmes du cœur de Paris, là. On est
donc,
face à
bienvenue dans mon bureau, très silencieux et serein.
Mais au moins, il y a de la vie.
Il y a beaucoup de vie.
Ouais. Est-ce que tu as un message que tu as envie de passer aujourd'hui là, aux parents qui nous écoutent ? Ceux qui sont peut-être concernés, qui ont une histoire similaire à la tienne, ou ceux qui, pas du tout, n'y connaissent rien dans ce parcours PMA homosexuel ?
C'est une sacrée question, mais j'aimerais dire à tous les futurs parents que rien n'est impossible et qu'on peut faire famille d'une multitude de manières et qui pourront forcément trouver un chemin. Ça, c'est important à entendre quand on est au pied de la montagne, justement. Donc, s'ils sont au pied de cette montagne, qu'ils trouvent les marches et ils peuvent la grimper.
Toi, tu te disais quoi à ces moments-là ? Qu'est-ce qui a été le plus dur ?
De ne pas savoir si j'allais être maman.
Ouais.
Voilà,
parce que c'était un rêve pour toi ?
Ah oui, je trouve que ça change toute une vie, en fait, de l'être ou de pas l'être. Mm. Les deux vies sont certainement très chouettes toutes les deux, mais c'était pas du tout la même vie. Et là, je me projetais vraiment dans celle de maman. Et j'avais peur de pas y arriver. Et du coup, ça aurait été pour moi compliqué, ça. Parce que quand c'est l'histoire d'un deuxième, d'un troisième, ça peut être très difficile aussi le désir d'enfant, mais l'enjeu est différent quand même. On est déjà maman.
Oui, tu voulais accéder à ce statut de maman.
C'est ça.
C'était important pour toi. Pour votre couple, j'imagine que ça a été aussi une épreuve.
C'est difficile parce que chacun est différent et a une manière différente de gérer ses émotions. Les échecs ou la perte d'un enfant, il faut beaucoup communiquer, laisser le temps, s'écouter et pas hésiter à prendre des pauses. Même si on a l'impression que ça nous éloigne de l'enfant qu'on attend tant, mais parfois c'est vraiment important de prendre des pauses. Et c'est d'ailleurs en prenant cette pause nécessaire et vitale qu'on a décidé de switcher, de changer.
De changer entre Aurélie qui porte l'enfant et toi, c'est ça.
C'est quand même un sacré changement de programme et qui implique aussi des deuils des deux côtés. Mais voilà, c'est important de se poser, de se re-questionner sur le projet, le désir et de refaire ses plans. Il ne faut pas être fixe parce que sinon, on peut se prendre vraiment beaucoup de portes fermées, ça peut être très difficile. Donc, il faut être flexible, s'adapter et vraiment s'écouter.
Trop bien. Merci pour ce témoignage. Je trouve que c'est très beau. Je pense que ça parlera à beaucoup de parents, quoi qu'il en soit. Tu as commencé par la Madeleine de Proust. Je finis par des petites Madeleines à t'offrir, oui, évidemment. De la marque Marlette qui m'accompagne dans le projet 1, 2, 3,
c'est chouette.
À cuisiner, ça changera des pancakes du dimanche.
On fera ça dimanche.
Donc, il faut un petit moule, mais une petite Madeleine à faire avec Alma.
Merci.
Et peut-être Aurélie pour déguster.
Je pense qu'elle serait ravie.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que par moments vous avez souri, que ça vous a touché d'une manière ou d'une autre, diverti, fait réfléchir. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ne me laissez pas seule derrière mon micro. Mettez des étoiles, des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram 123pépites. Je suis Céline Ferrari, créatrice de ce podcast et présentatrice animatrice par ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.